Alors, tout autre chose. Maintenant, comme chaque mois, nous allons accueillir le médiateur de Radio France, et en l'occurrence, la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques.
Vous succédez à Bruno Denas. Alors, bienvenue d'abord dans ce Trait d'Info. Et voyons donc tout de suite avec vous ce que les auditeurs ont à nous demander ou à nous reprocher.
Alors, ce mois-ci, Pierre Rabhi, c'est le sujet qui fait beaucoup réagir les auditeurs. Le 15 septembre dernier, vous avez invité le journaliste Jean-Baptiste Mallet à venir s'exprimer dans Secret d'Info au sujet des contradictions de Pierre Rabhi. Interview très critiquée par de nombreux auditeurs qui n'ont pas compris pourquoi vous aviez choisi de traiter ce sujet, Jacques Monin.
C'est pourtant assez simple. Il se trouve que Jean-Baptiste Mallet a écrit un article, effectivement, qu'il a intitulé « Le système Pierre Rabhi dans le monde diplomatique » l'été dernier. Et cet article a été un des plus lus du monde diplomatique à cette période-là et a provoqué, on l'a déjà senti, un certain trouble. Donc, moi, je me suis dit, il se passe quelque chose. Là, il a touché quelque chose et il me semblait intéressant de comprendre tout simplement d'où venait ce trouble. Par ailleurs, Pierre Rabhi n'est pas un quidam. C'est quelqu'un qui a une vision de la société et du monde, qui propose ou qui prétend proposer une alternative au mode productiviste dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et il a une grosse surface médiatique. Je veux dire, il donne 30 à 35 conférences par an. Il a des entrées dans de nombreux médias en France. Il a une très grosse audience. Et à ce titre-là, je ne vois pas pourquoi on aurait dû faire l'économie de l'examen critique du discours de Pierre Rabhi.
Alors, cet examen critique du discours de Pierre Rabhi n'a pas vraiment plu à François. Il nous écrit « Je croyais que le métier de journaliste consistait à confronter ses sources. Il y a là une investigation trop à charge. » Avez-vous vérifié les propos de Jean-Baptiste Mallet ?
Alors, il faut resituer les choses. Secret d'Info, pour ceux qui nous écoutent, ils le savent. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est une partie enquête, qui, elle, est assurée par la cellule investigation de Radio France. Et donc, c'est nous qui faisons l'enquête. Et il y a une deuxième partie qui est une partie invitée, où l'on invite quelqu'un dont on considère qu'il est légitime et que le sujet dont il traite est d'intérêt général. Et à ce moment-là, c'est lui qui va assumer ses propos. En l'occurrence, était-il légitime, Jean-Baptiste Mallet ? Pardon, mais il a écrit un livre sur Amazon qui fait référence, c'est quand même un des premiers qui a infiltré Amazon, qui est quand même une des grosses entreprises multinationales qui interroge aussi le modèle de distribution, de l'évolution de la distribution dans le monde. Il a également écrit un livre plus récemment sur la tomate industrielle, donc il s'intéresse aussi aux problématiques de l'agroalimentaire et de la qualité de l'alimentation. Un livre qui, en passant, a été sélectionné pour le prix Albert Londres, donc pardon, ce n'est pas n'importe qui. Et j'ai discuté avec lui, je peux vous garantir qu'il est allé sur place, il est allé aux Amana dans la Drôme, il est allé au hameau des Buis, donc c'est pas une vue de l'esprit tout ce qu'il raconte. Il est allé au monastère de Solan, il est allé chez Pierre Rabhi, il a rencontré Pierre Rabhi, il a 3 heures d'enregistrement avec Pierre Rabhi. Tout ça me semble quand même créditer la qualité de celui que nous avons invité. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu s'exprimer.
Alors, en l'espèce, l'angle choisi semble poser problème. Boris nous demande « Depuis quand gagner de l'argent est un délit ? Depuis quand ne pas reverser tous ses biens en est un aussi ?» Léo renchérit « Il ne vole rien à personne » et un autre auditeur constate « Ce n'est pas croyable de vivre dans un pays où l'on cherche toujours à discréditer le succès. »
Alors, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Baptiste Mallet. Moi, ce que je peux, c'est vous expliquer pourquoi on l'a invité et pourquoi il nous semblait intéressant de l'entendre. Ce que je peux faire remarquer quand même, c'est que dans un rôle de modérateur, j'ai moi-même effectivement fait remarquer à Jean-Baptiste Mallet que gagner de l'argent n'était pas scandaleux en soi. Et ce qu'il a répondu quand même pour mémoire, c'est que le problème n'est pas que Pierre Rabhi gagne de l'argent ou gagne correctement sa vie. Le problème, c'est la contradiction éventuelle qu'on peut identifier entre le discours de sobriété, voire de pauvreté d'un côté, et la réalité de ses revenus. C'est ça qui l'interroge, c'est pas l'argent, c'est la cohérence en fait entre ce discours et la réalité.
Géraldine, une auditrice, estime que s'intéresser à Pierre Rabhi, c'est négliger d'autres sujets. Je la cite « N'auriez-vous rien de mieux à faire ? En qualité de journaliste, il y a des sujets prioritaires à traiter. Le train de vie de l'État, les lois mises en place sur les routes françaises, la répression ambiante, les retraités pensionnés, les problèmes climatiques et écologiques. » Stéphane, un auditeur, est sur la même ligne. Je vous lis un extrait de son mail. Pendant ce temps, le journalisme, qui est censé être le cinquième pouvoir, laisse les politiques bien tranquilles quand ces crapouilles donnent le droit à des multinationales de nous empoisonner, vote Monsanto, et s'il n'y avait que ça encore. Jacques Monin, que répondez-vous à Géraldine et à Stéphane ?
Je vais inviter Géraldine et Stéphane à écouter Secret d'Info. tout simplement. Parce que si vous regardez un peu les sujets qu'on traite, on a récemment traité des questions de pollution et d'impact sur la santé publique dans la région de Fos-sur-Mer. On a fait des émissions sur les lobbies, justement, et comment les lobbies infiltrent le pouvoir, comment ces lobbies ont torpillé un certain nombre de mesures en faveur du bien-être animal qui faisait partie des propositions d'Emmanuel Macron. Je la renverrai aux Paradise Papers et à tout ce qu'on a fait sur l'évasion fiscale. Je la renverrai à tout ce qu'on a fait, ou je les renverrai à tout ce qu'on a fait sur l'affaire Fillon, sur les assistants parlementaires du Modem, sur les ristournes accordées au candidat Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, à ce qu'on a fait sur la privatisation des autoroutes, sur le gaspillage. Sur... Donc voilà, il suffit d'écouter ce qu'on fait pour comprendre que cette critique, pardon Géraldine et pardon Stéphane, mais je pense que cette critique n'a aucun sens.
Ce qui est tout à fait notable dans le flot des mails reçus, c'est le caractère injurieux des contenus, ce qui constitue d'ailleurs en soi une forme d'évaluation du degré de mécontentement des auditeurs. Mais une telle inflation d'insultes, c'est aussi un objet d'interrogation.
Oui, ça n'est pas révélateur que du mécontentement, parce que du mécontentement, on en génère forcément, on est sur des terrains polémiques, et quand on contrarie des intérêts, on suscite forcément des réactions. Là, c'est plus que du mécontentement. Effectivement, on a été abreuvé parfois de messages injurieux, insultants. Et là, j'avoue que, là aussi, on parlait de contradiction tout à l'heure, je trouve qu'il y a une contradiction. Si les personnes qui, effectivement, nous envoient ce type de messages se revendiquent d'une mouvance qui elle-même prône l'ouverture, le partage, la bienveillance, etc. Là, il y a une incohérence, une contradiction. Et là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors après, on peut oser une hypothèse, mais je comprends que dans un monde anxiogène où effectivement la pollution, le réchauffement climatique, les atteintes à la biodiversité, les effets des perturbateurs endocriniens, l'épuisement des ressources fossiles, etc., devient un enjeu tellement majeur qu'on a peur pour ce que va devenir notre monde, et que dans ce contexte-là, Pierre Rabhi apparaît comme une espèce de lueur d'espoir. Et quand on donne le sentiment de toucher à cette lueur d'espoir, bah effectivement, on provoque des réactions extrêmement violentes, parce qu'on a l'impression d'affaiblir un combat qui est essentiel. Mais moi, je dirais que peut-être au contraire, parce que cet enjeu est fondamental, il est important aussi que l'on s'accorde le droit de s'interroger sur ceux qui pensent l'incarner.
Dernière question sur une toute autre enquête diffusée le 15 septembre dernier. Jeanne avec Macron, histoire d'un hold-up politique. Christophe, un auditeur, écrit « Reportage et investigation très intéressant. Je ne suis pas particulièrement macroniste, mais côté vocabulaire, je trouve l'usage de hold-up complètement déplacé. Un hold-up est un braquage. Qui ont donc menacé ces gens? Qu'ont-ils volé? On peut ne pas apprécier la méthode, mais par ce terme, c'est insinuer la délinquance. » Alors c'est un point de vue largement partagé par d'autres auditeurs. Jacques Monin, pourquoi avoir fait le choix d'un tel titre ?
Bon, le plus simple, c'est peut-être de demander à Sylvain Tronchet, qui est avec nous et qui a fait, pour le coup, l'enquête, ce que vous, Sylvain, vous auriez à répondre à nos auditeurs.
Il y avait un évident second degré. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal partagé, le second degré. Peut-être qu'on aurait dû éviter de l'utiliser. Moi, je pensais qu'on pouvait le dire. C'est une expression qui est utilisée dans le milieu sportif, par exemple. On qualifie de hold-up une victoire qui est acquise dans des conditions extrêmement surprenantes, rocambolesques et inattendues. Et ça me semblait caractériser également le parcours de ces jeunes garçons. Ça faisait référence aussi à quelque chose qui est l'élection d'Emmanuel Macron, qui a été qualifiée de hold-up parce que Emmanuel Macron lui-même dit qu'il a été élu par effraction. Et évidemment, Emmanuel Macron ne sous-entend pas que lui-même a volé quelque chose, mais il utilise ce terme d'effraction. Par conséquent, ce hold-up était une sorte de petit hold-up dans le grand hold-up, d'où l'utilisation de l'expression.
Bien, Sylvain, on va peut-être en rester là. Emmanuel Davier, pas d'autres questions ?
C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve donc le mois prochain. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais restez avec nous, puisque dans quelques instants, vous allez découvrir qu'en 2011, BNP Paribas a failli mettre la clé sous la porte, et ce, dans le plus grand secret.